Non. Non, je voulais dire sur ce, place à la chronique corbusienne.
Hey Eric, I know you listen to me. This song is for you, for us. I kiss you.
You've given me a million reasons to let you go. You've given me a million reasons to let you go. You've given me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still.
But you've given me a million reasons.
Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware.
Cause you've
given me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe.
But you've given
me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million reasons.
Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir étudiants, bonsoir étudiantes et bonsoir chers lycéens et chères lycéennes. J'aurais dû ce soir vous parler des architectures du déplacement, vous faire croire que finalement les autoroutes sont pleines de trésors architecturaux construits pour le passage, l'arrêt rapide. Il existe, c'est vrai, une histoire des aires de repos sur les autoroutes. Il existe par exemple les très beaux autogrilles dessinés pour Pavésie et qui aujourd'hui encore nous frappent par leur modernité. Je me souviens comment, avec les étudiants, nous avions fait une pause sur l'un d'eux au retour de Florence. Comment j'avais été surpris de trouver dans la boutique de cet autogrille, au milieu des essuie-glaces et des prises multiples internationales, un livre racontant leur histoire. Je me souviens de Claude me faisant la promesse d'en traduire le texte italien. J'aurais pu ce soir aussi évoquer en France les aires d'autoroute de Jacques Borel, mélange de modernité adoucie et d'audace futuriste. On en trouve encore en fonctionnement sur l'A1 à Asservillers. Constitués d'un pont surplombant l'autoroute et de bâtiments pyramidaux, ils sont l'œuvre de Monsieur Fatu, architecte. Une architecture de l'arrivée et du départ, où tout sera mis en place pour retenir le client en lui proposant tous les services possibles pour qu'il consomme en oubliant de tenir sa moyenne. Il existe un autre modèle à Saint-Albin, plus radical, toujours pour Jacques Borel, dont le pont au-dessus de l'autoroute est en fait le restaurant. Énorme poutre suspendue au-dessus du vide, le client dîne en se régalant du somptueux spectacle de la circulation autoroutière et de la perspective infinie du bitume. Il y a quelques années, au retour d'une visite au Louvre-Lens, dessinée par l'agence Sanaa, nous avions fait une pause sur l'aire de repos toute neuve, celle de Taponas, que j'avais trouvée finalement bien plus intéressante que l'anonyme musée, qui, lui, à force de ne pas vouloir impressionner le peuple, finissait par n'être plus rien qu'un hangar glaçant, dont la cafétéria, à quelques mètres de l'autoportrait de Raphaël, proposait un four à micro-ondes pour réchauffer le pique-nique, dans une ambiance toute blanche, mêlant l'esthétique d'une salle d'intervention chirurgicale à un japonisme agonisant, meublé comme une cantine scolaire. Alors, cette aire de repos, dessinée par l'agence Assisec, reste un bon souvenir, une architecture manifestement contemporaine, jouant de tous les codes actuels comme l'utilisation un peu trop appuyée du bois ou de la tôle perforée par la découpe numérique, et formant dans l'acier cortène des images de pieds de vigne. J'en aimais les espaces étageant justement les temporalités des passages, du routier bulgare en transit, prenant son sandwich rapidement et le mangeant debout, au père de famille surchargé de 3 enfants en bas âge, préférant le confort plus douillet de l'espace famille, gardant les gosses pendant que la mère était partie avec l'aîné récalcitrant de 17 ans chercher les plateaux repas. Il y a quelque chose de touchant, toujours, à ces rassemblements de hasard des routes, nous faisant tous passager d'un espace commun comme une île ou un oasis au milieu de la vitesse, du bitume, du cul de camion. J'aurais bien pu aussi, ce soir, vous parler de l'architecture des fast-foods que ma génération a vu arriver en France. Adolescent, j'avais même un peu peur de ne pas savoir me servir de ces lieux, incapable que j'étais de comprendre le fonctionnement du service, cette idée bizarre de faire la queue pour être servi au restaurant, même si l'émergence des self-service nous avait un peu prévenus et habitués de l'arrivée de ce mode de restauration rapide. Je me souviens que j'en détestais le vide de la décoration, ce sentiment étrange que rien de solide ne permettait de croire en la réalité de la nourriture que l'on y sert. Après tout, un bœuf bourguignon exige la lourdeur d'une cocotte en fonte, alors qu'un hamburger n'a l'air de réclamer qu'un plateau minable en plastique, comme si on jouait à manger au lieu de manger vraiment. L'architecture des McDonald's a pourtant vite fait partie de notre paysage, et le poteau surmonté d'un M géant surgissant dans la zone commerciale devint vite comme le clocher de nos villages, un signe de ralliement. Pourtant, dans la banlieue de Bordeaux, nous n'avions trouvé avec Nicolas Hérisson qu'un McDonald's pour nous restaurer, car en France, à partir de 22h en province, on n'assure plus le service. Si je n'ai pas gardé de souvenir majeur de ma salade César, nous avions été particulièrement intéressés par le lieu, véritable ready-made de l'architecture du premier McDonald's. Comme si on voulait nous faire croire que nous étions, ici au milieu de la périphérie de Bordeaux, perdus sur la mythique route 66. Pourtant, j'étais bien sûr d'avoir garé sur le parking, non pas une Chrysler décapotable, mais mon Renault Trafic. Ce McDonald's bordelais reprend détail après détail tous les codes de l'architecture du premier McDo dessiné par l'architecte Stanley Meston. C'est bien les arches modernistes de ce premier restaurant qui donneront l'idée à Jim Schindler de dessiner le M majuscule de McDonald's avec 2 arches jaunes vifs. L'architecture de ces premiers McDo affiche clairement une influence streamline. Il fallait faire de l'architecture un signal, une forme reconnue, un événement soudain sur le bord de la route. Aujourd'hui, sur son site officiel, McDonald's affiche une volonté claire de produire des restaurants intégrés, systématiquement contextualisés à leur environnement, mais aussi tentant le greenwashing en allant jusqu'à affirmer leur fierté de candélabres extérieurs en bois à haute qualité environnementale. Mais voilà, je n'ai pas envie ce soir de vous faire une leçon architecturale, préférant avec vous évoquer un beau souvenir de déplacement de passage. Il y a 7 ans, j'avais entamé un road trip aux USA avec l'ami Jonathan. Nous avions décidé de louer l'un de ces gros Dodge 4x4 que les Américains aiment tant et qui donne l'illusion de pouvoir résister à une apocalypse. Nous nous étions donné comme objectif de ne jamais dormir plus de 2 nuits ensuite dans le même motel, Las Vegas étant notre point final de ce voyage. Le motel, c'est tout de même aussi un mode architectural passionnant. Presque toujours sur le même type, le motel, c'est la légende de la route américaine. Une immense enseigne en néon avec une flèche vous annonce le nom du motel, précise parfois « No vacancy ». Un bureau d'accueil, puis une suite de chambres, souvent toutes de plein pied, avec devant la porte de chaque chambre la place du parking nécessaire aux voyageurs. La mythologie du motel était aussi un objectif de ce voyage, et Jonathan m'avait indiqué qu'il en aimait autant la pauvreté de leur architecture que leur éclatante puissance onirique. Nous ne fûmes pas déçus. Nous nous sommes en effet arrêtés un soir au Cardinal Motel sur Atlantic Avenue. La nuit était déjà tombée et comme à mon habitude, je laissais Jonathan réserver la chambre. Je l'attendais dans la voiture, mi-fatigué, prêt à m'engouffrer dans n'importe quelle chambre, mi-désenchanté par la bêtise répétée de ce désir loufoque de dormir dans un tel endroit. Mon œil eut rapidement repéré la piscine. Elle offrait un rectangle bleu parfait, comme si le ciel tout entier, avant de virer au noir, avait coulé là, dans ce bassin. La chaleur me faisait déjà rêver à quelques longueurs lorsque, sous la lumière tonitruante des lampes du parking, je repérais une somptueuse moto noire comme un énorme insecte abandonné. C'était le seul autre véhicule stationné, une Harley sans doute, mais l'une de ces Harley customisées, pleine de ses détails en acier poli, un peu voyant, que seuls les beaux latinos savent assumer. Crâne sur le pommeau de réservoir, crucifix collé sur la selle, etc. J'aimais de suite ce mélange de vulgarité, de désir de puissance, de virilité de boîte à bijoux mexicaine. Jonathan me lança de loin le chiffre 14 et je compris qu'il me fallait emmener notre Dodge juste devant la chambre ainsi indiquée. Le lit, toujours immense, laissait bien de la place pour notre pudeur réciproque, même si parfois j'aurais aimé quelques glissements. La moquette, un peu fatiguée, aurait donné du fil à retordre à des flics pour une recherche d'ADN. La note de 2,5 sur TripAdvisor aurait pu nous alerter. La télé marchait. Jonathan sauta sur le lit et chercha les chaînes de sport. Sans aucun mot, je décidai de sortir et d'aller enfin sauter dans la piscine. Il était 21h, il faisait encore 89 degrés Fahrenheit, soit 32 degrés Celsius, comme l'indiquait le thermomètre lumineux du motel. Après quelques longueurs, totalement seul, je m'accoudai au bord de la piscine, regardant un ciel parfaitement étoilé. J'avais devant moi l'enseigne lumineuse qui clignotait mollement, donnant alternativement l'occasion de profiter du noir de la nuit, puis ensuite du rouge et du orange des néons. C'est dans le moment du noir total que j'eus la première perception de ma rencontre. Une silhouette fine, musculeuse, un rien râblé s'avançait sans hésitation vers cette piscine. J'étais heureux de cette ombre et j'avoue, en même temps désolé de penser que j'allais perdre l'exclusivité de la piscine. Plus la silhouette avançait, mieux j'en percevais les atouts. Une fois en contre-jour, lorsque les couleurs de l'enseigne la rétroéclairaient, une fois disparaissant presque, retombant dans une nuit profonde. Je ne vis pas le visage, je vis juste ce corps se glisser doucement, tranquillement dans l'eau, ne soulevant alors que de minuscules vaguelettes venant frapper mon torse. Je laissais ce corps anonyme venir vers moi. Enfin, un visage apparut, superbe, aux sourcils broussailleux, visage qu'un sourire éclatant vint fendre en deux au moment même où il me prononça un « Hey guy » des plus joviales. Je bredouillais en français un bonjour stupide que l'inconnu ne put entendre. Il était déjà reparti dans l'autre sens. Étrangement, il ne nagea que sur une partie de la piscine, comme s'il voulait me laisser tranquille dans mon espace. Je le voyais ainsi faire ses longueurs, nageant doucement, patiemment. Il sortit de l'eau comme il était venu, laissant derrière lui les petites flaques qui tour à tour prenaient le rouge et l'orange des néons, qui prenaient la nuit. En rentrant dans la chambre, je trouvai Jonathan endormi, étalé de tout son long dans le travers du lit, le paquet de chips explosé à ses pieds nus. Le lendemain matin, j'eus la surprise de me réveiller seul, Jonathan était déjà sorti. Je le retrouvai à la petite cafétéria du motel, lui n'était pas seul. Un type de dos lui parlait, ils se marraient tous les deux, ils parlaient espagnol. Je reconnus immédiatement les contours de ce buste, cette fois habillé d'un t-shirt blanc aux manches retroussées, comme les latinos savent le faire, laissant apparaître le buisson sombre de ses aisselles. Cet inconnu, ce nageur de la veille, Jonathan me le présenta, c'était l'acteur Rick Gonzalez. Il nous raconta qu'il revenait d'un tournage d'un clip pour Lady Gaga, où il jouait, et cela le faisait mourir de rire, où il jouait le rôle d'un Jésus latino. Il aimait ainsi traverser le pays en moto, seul pour rejoindre après ses contrats sa famille à Los Angeles. Nous étions impressionnés de toucher un peu le rêve américain. Nous étions subjugués par sa beauté, sa simplicité, sa liberté. Rick était curieux de la France, il avait prévu de venir voir Paris, et il était surtout étonné que je vienne du Mans, qu'il connaissait bien entendu pour ses grands prix moto et auto. Nous passâmes une heure avec lui, puis nous le regardîmes partir sur sa moto, nous faisant avec sa main gauche un signe typique des bikers. De retour en France, j'attendis longtemps, presque 6 semaines, oui, j'ai compté, pour voir enfin ce clip de Lady Gaga dans lequel il jouait. J'y retrouvais avec émotion le visage de Rick, un rien durci par le maquillage et le rôle qu'il devait tenir. Depuis, j'aime les chansons de Lady Gaga. J'aime qu'elle affirme « Si avec mon album, je peux toucher une petite fille de 4 ans comme un étudiant en art de 25, alors j'aurai fait du bon travail. » J'aime qu'elle choisisse si bien ses Jésus, et surtout j'aime quand elle chante des rengaines déglinguées sur l'amour absolu, sur le désir de partir, sur la nécessité de rester. J'aurais bien entendu aimé que Rick Gonzalez me donne une seule bonne raison de rester avec lui. Rick, donne-moi une seule bonne raison de rester. Baby, I just need one, good one, good one. Tell me that you'll be the good one, good one. Baby, I just need one, good one to stay. Mais l'amour, vois-tu, Rick, c'est toujours sur place, jamais à emporter. Merci, bonsoir.